Du 6 au 11 novembre, La Grenouille se fait l'écho du Festival des cinémas d'Afrique du Pays d'Apt.
Allez, on y va!
On écoute la réalisatrice franco-tunisienne Nadia El Fahni autour de son film documentaire Ouled Lénine.
Ouled Lénine, c'est un titre arabe parce que, évidemment, Lénine, c'est forcément international. Et Ouled, ça veut dire enfant en arabe, les enfants de Lénine, en fait. Pourquoi ce film? Parce que moi, j'ai vécu une histoire particulière dans ce pays qu'est la Tunisie au lendemain de l'indépendance. J'ai grandi avec les premiers temps de l'indépendance, sauf que moi, mon père était un des dirigeants du Parti communiste tunisien et que dès ma toute petite enfance, le Parti communiste a été interdit et que donc j'ai grandi dans ce milieu de communistes qui étaient tous des copains, en fait. C'était une grande famille comme ça, de gens qui vivaient leur action militante dans la clandestinité. Et c'est une chose qui m'a, je pense, profondément forgée dans ce que j'ai pu être après. Et à l'âge adulte, en voyant ma fille commencer à militer, à aller manifester contre le CPE, et que c'était vraiment très touchant de voir cette fougue des jeunes qu'il y a eu à ce moment-là. Et je me suis rendu compte qu'elle ne connaissait pas l'histoire de son grand-père, et donc que forcément la jeunesse tunisienne ne connaissait pas tout ce pan de l'histoire politique de la Tunisie, parce que justement ces gens-là ne sont pas dans les médias et qu'il n'y a plus de liberté de presse. Et donc voilà, je me suis dit qu'il fallait absolument très vite faire quelque chose.
Né en France en 1960, débarqué en Tunisie en 1961. Je n'ai pas vraiment eu conscience que j'avais une double identité au tout début de mon enfance. Mon père était tunisien, ma mère était française. J'allais en France en vacances et je grandissais en Tunisie et j'avais le sentiment qu'on était en train de construire un pays nouveau. Et surtout, j'étais convaincue que la société de demain serait communiste, qu'il y aurait un homme nouveau et qu'on chanterait l'international avant chaque repas et pour clore chaque journée. Tellement il y avait un enthousiasme autour de cette idée du communisme. Grande aventure des communistes tunisiens.
Alors ce film Ouled Lénine, c'est à la fois un film politique, un film très personnel aussi et très humain sur une aventure humaine. Ça commence par une phrase de vous, j'avais 10 ans et je peux dire que c'était le plus bel âge de ma vie. Donc il y a à la fois cette idée de nostalgie et de transmission.
Oui, absolument. C'est une phrase qui fait référence à une phrase de Paul Nizan. Et oui, c'est vraiment. Moi, je suis très habité par la question de la responsabilité en tant que cinéaste quand on vient d'un continent comme l'Afrique, parce que ça me touche de voir où on en est aujourd'hui et vers quoi on va. Et j'ai tellement peur de l'endroit où on va que je pense que c'est très important d'être engagé dans cette idée qu'il faut absolument produire des images pour soit raconter nos inquiétudes, soit proposer autre chose. Et par exemple, à travers mes films de fiction, je propose souvent des personnages complètement décalés par rapport à la société, complètement anticonformistes, en essayant de le faire dans des films qui sont entre guillemets accessibles.
Pourquoi les bagues toujours et la chair sous la roue? Le massacre toujours justifié d'idoles. Au cadavre jeté ce manteau de parole. Le paillon pour la bouche et pour la main le clou. Un jour pourtant, un jour viendra, couleur de
orangé. Un jour de palme, un jour.
On voit pointer l'indépendance et on voit pointer de manière un peu, peut-être un peu romantique, quoi. Une Tunisie laïque, générale, ouverte, où chacun aura sa place, etc., etc. Tunisie qui, à mon avis, est celle que Bourguiba imaginait aussi.
Ça, c'est le moment fort qui voulait dire que désormais, il y avait un pays. Que ce pays était souverain. Que ce pays a une histoire, n'est pas un pays né de n'importe quoi. N'est pas un accident de l'histoire, comme il se plaisait à dire, comme Bourguiba se plaisait à dire. Et beaucoup de communistes à l'époque étaient en phase avec cette partie du discours et avec l'autre partie de l'État moderne, etc., de la rationalité, de la généralisation de l'enseignement, de la libération de la femme. Du fait que Bourguiba a décidé pendant un quart de siècle que, contrairement aux autres pays arabes, dont le budget allait à l'armement, qu'un tiers du produit intérieur brut aille à l'enseignement. Et c'est pour ça que ces communistes, que cette fraction des communistes, a été en phase pendant cette politique, avec cette politique.
Est-ce que ça veut dire que Bourguiba leur a coupé l'herbe sous le pied ?
Tout ce que l'homme fut, de grand et de sublime, sa protestation, ses chants et ses héros, au-dessus de ce corps et contre ses bourreaux, à Grenade aujourd'hui.
C'est un film, je pense, pour les générations à venir. Bien sûr, je sens qu'il touche beaucoup les gens de mon âge ou les gens de l'âge de mon père, parce que c'est quelque chose qu'ils ont vécu et qu'on a tous, quelque part, un peu une nostalgie de cette époque de où la gauche était forte et parce qu'elle portait haut des valeurs universelles et qu'aujourd'hui, un peu dans le monde entier, je crois, tout le monde est un peu désorienté parce que, justement, il n'y a plus ce pendant de gauche. Alors je sais bien que c'est l'URSS qui a gâché tout ça, mais je pense que c'est important de rappeler que les communistes ont été quand même ceux qui ont porté les valeurs essentielles de l'être humain, de liberté, d'égalité, de fraternité, mais aussi de justice sociale, d'antiracisme, d'internationalisme, et que finalement, aujourd'hui, si on regarde bien, les communistes, ils sont quand même toujours dans ces combats-là.
Non, il faut le dire pour l'histoire.
Donne-moi ta main, camarade, toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux. Donne-moi ta main, camarade, j'ai cinq doigts moi aussi, on peut se croire égaux. Serre-moi la main, camarade, je te dis au revoir, je te dis à bientôt, 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 on pourra se parler, camarade, bientôt, bientôt, le soleil dansera, camarade, bientôt.
C'est triste. Peut-être que je suis vieux, que je ne suis plus, que mon optimisme n'est plus aussi opérant que quand j'étais plus jeune. Tous les maux dont je souffre dans ma vieillesse, c'est aussi de cela, la disparition de ce début de société cosmopolite qui se formait avec les juifs, avec les chrétiens étrangers, avec les étrangers, le reste des Siciliens, le reste des Maltais, le reste de tout. Tous les chrétiens qui se pouvaient se trouver là et qui sont, parce que évidemment la France leur a donné la nationalité française ou la possibilité d'acquérir la nationalité française facilement, eh bien ils sont partis. Et ils nous ont laissés seuls. C'est quand même une perte.
Est-ce que tu te sens toujours communiste ?
La réponse est oui, je suis communiste. Dans la mesure où je suis pour un homme libre, pour un homme dégagé des entraves économiques, des contraintes matérielles, et qui puisse se développer intellectuellement, développer des relations avec autrui, dans la liberté et le respect. Mais le communisme en tant que système, ça, la vérité, je ne sais pas, parce qu'il faut repenser tout ça. Il faut repenser à la lumière de la situation actuelle et puis peut-être ne pas se presser de jeter l'enfant avec l'eau du bain. On passe par une période de régression extrême de l'humanité. Pour moi, la période actuelle de l'Occident est la période de la fin de l'Occident parce que l'Occident est en train de mettre ses valeurs en lambeaux. Les valeurs au nom desquelles on nous demande de ne plus croire au communisme me paraissent encore plus contestables que toutes celles du communisme.
Est-ce que tu pourrais dire que tu es toujours communiste ?
Non, franchement non. Le mot a tellement peu de sens que je serais malhonnête. Non, moi ce qui me fascine pour moi personnellement, c'est comment ça se fait qu'on s'est laissé piéger.
Est-ce que tu peux dire que tu es toujours communiste ?
Non. Certainement pas. Certainement pas, pour deux raisons. Première raison, parce que j'ai récusé un certain nombre de principes fondamentaux du communisme, assez jeune, dont, au premier rang d'entre eux, la révérence et l'obéissance par rapport à l'Union soviétique, hein, c'est-à-dire, et ça, j'ai récusé l'absence totale d'autonomie de la pensée. J'ai eu petit à petit une attitude très critique et je pense que le communisme fait partie des utopies les plus tragiques du XXe siècle.
Moi, je crois que c'est l'utopie qui fait avancer l'humanité. En science, c'est le cas.
Je reste marxiste à certains égards, ce qui n'est pas la même chose. Je ne suis pas léniniste et je récuse la filiation léniniste. Je ne récuse pas la filiation du marxisme. Et puis, je ne me dis pas communiste parce que, je le répète, le communisme n'existe plus. On ne peut pas se revendiquer d'un cadavre. Bon, parfois, il bouge encore, le cadavre. Enfin, c'est quand même un cadavre. Ah.
Je ne sais pas, peut-être qu'il y a une vis qui a été mal vissée quelque part. Je ne sais pas où. Il y a peut-être un traumatisme quelque part.
Moi aussi, j'ai beaucoup aimé cette phrase, c'est pour ça que je l'ai montée, où elle dit « Je ne sais pas, je crois qu'il y a... » Il y a un boulon qui a été mal vissé quelque part ou un traumatisme. Ça m'a marqué aussi, un traumatisme. Je pense que le traumatisme, oui, c'est l'URSS. Je pense que ça a fait beaucoup de mal aux marxistes, quoi, on va dire, pour ne pas dire seulement les communistes, mais quand même, ils sont issus de là. Et ils ont du mal à s'en remettre parce que, effectivement, comme le capitalisme a gagné dans le monde entier, la seule chose qu'on martèle aux gens maintenant, aujourd'hui, et je pense que les journalistes le font aussi souvent aisément, de dire l'URSS a tué 20 millions de personnes. On oublie aussi que l'URSS a donné 20 millions de civils pour défendre quand même la liberté, puisque c'était contre les nazis. C'est quand même en URSS qu'il y a eu le plus de morts à la Deuxième Guerre mondiale. Et on oublie un peu trop souvent de le dire. Évidemment, je ne sais pas pour excuser... Les crimes de Staline, mais c'est pour dire que les sociétés, elles sont complexes et je pense que ce système a fait faillite là-bas. Mais les idées marxistes, c'est quand même les idées qui se rapprochent le plus de ce qu'on appelle l'humanité.
Effectivement, alors votre film résonne complètement avec l'anniversaire de la chute du mur de Berlin et effectivement, cette pensée dominante martelée dans les médias. Est-ce qu'on peut dire que votre film, qui parle du passé, très très peu du présent, hein, il y a quelques images de Ben Ali, mais et justement, à travers le passé, éclaire le présent, les possibilités de lutte du présent ?
Bien sûr, il est fait pour ça. Hein. Je pense que quand on parle de transmission, d'héritage, c'est par rapport à ça. C'est-à-dire que, et puis, comme je dis souvent, le fait que je ne dise rien sur la Tunisie actuelle veut déjà tout dire sur ce qu'il est possible de faire en Tunisie aujourd'hui. Donc, et puis, effectivement, il y a tous ces plans dans les rues qui sont assez explicites ou des petits clins d'œil parfois provocateurs. Mais oui, aujourd'hui, il faut connaître cette histoire comme il faut. Et donc, à travers moi, j'ai choisi de montrer cette aventure humaine avant tout, et non pas seulement montrer ce qu'a été et pointer du doigt ce qu'a été la faillite d'un système dans un endroit donné, à une époque donnée, mais aussi montrer que c'est quand même grâce à ces valeurs-là qu'on a réussi à faire avancer aussi des notions de liberté des peuples, de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est quand même pas la droite qui a inventé ça. Enfin, c'est la droite, elle a inventé la colonisation, elle a inventé l'injustice sociale, et ceux qui ont inventé le contraire, c'est quand même eux. Alors que maintenant ça soit récupéré par tout le monde au nom de la République, moi je veux bien, mais encore faudrait-il être cohérent avec ces notions-là.
À tous, je leur ai posé une question rituelle à la fin. Et en leur demandant, est-ce que tu es toujours communiste ?
Oui. Oui. Franchement, oui. Je me sens toujours communiste. Je n'ai jamais cessé de me sentir communiste. Mais qu'est-ce qu'être communiste à mon âge ? Aujourd'hui, en Tunisie, ça, c'est une autre histoire.
Est-ce que vous cherchez constamment la subversion, à faire un cinéma subversif ?
Je ne sais pas si je cherche, je crois que malheureusement je suis profondément subversive parce que ça me coûte très cher par rapport à ce métier, parce que je crois qu'on n'aime pas, on n'aime plus. À un temps donné, je pense dans les années 70, ça aurait été beaucoup plus facile pour moi. On a aimé les subversifs. Aujourd'hui, on n'aime pas les subversifs dans n'importe quelle société, parce que moi, je vis entre Paris et Tunis, mais maintenant, j'essaye de faire mon cinéma à partir de Paris, puisqu'à partir de Tunis, c'est plus possible. Et je me rends compte à quel point on n'aime pas les trublions, on n'aime pas les provocateurs, on n'aime pas tout ce qui dérange cette espèce de pensée dominante. Je pense profondément que ce qu'on a appelé la pensée unique il y a déjà 15-20 ans, je crois, est en train d'envahir tout, quoi. C'est terrifiant de voir à quel point on n'aime pas les gens qui parlent fort, on n'aime pas les gens qui se mettent en colère, on n'aime pas les gens qui se révoltent, alors que c'est ça qui va faire avancer et qui va créer du débat et qui va faire qu'on va en sortir quelque chose. Et moi, je continue à être comme ça, mais je vois que c'est hyper difficile, quoi. J'arrive pas à me faire une place au soleil.
Oui, la mode est plutôt retournement de veste. D'ailleurs, vous avez travaillé avec Romain Goupil.
Bravo, vous avez lu mon CV. Oui, je suis fâchée avec lui. Enfin, je suis fâchée avec lui, il ne le sait même pas. On se voyait régulièrement. Moi, j'étais en Tunisie et en France. Je l'appelais souvent quand je venais en France. On se voyait et c'est vrai que sa prise de position par rapport à la guerre d'Irak a fait que je n'ai plus jamais eu envie de l'appeler et de le voir parce que, bon, c'est son opinion, effectivement, il a le droit, mais je pense que, alors là, ça m'a effaré au moment de la guerre d'Irak, tous ces gauchistes qui ont approuvé Bush, mais Bush, quoi, je veux dire, à la limite, ça aurait été un Clinton, peut-être qu'on aurait pu un peu leur pardonner, mais Bush, c'était pas possible, quoi. C'est invraisemblable. Mais ça a été très dur, hein, cette cassure en 2003, parce que elle était le pendant de la cassure qu'il y avait eu déjà avec Mitterrand en 91, quand il s'était engagé avec toute la coalition dans la guerre d'Irak. Et je pense qu'il y a un malentendu profond entre ce qu'on appelle les Occidentaux et le monde arabe, à savoir que les Occidentaux se sentent menacés par un monde arabe qui pourrait être fort et développé, et que du coup on le réduit à cette identité musulmane et intégriste, quoi. Et ça, c'est très difficile d'arriver à faire comprendre la nuance entre un arabe et un musulman aujourd'hui.
Mais même si on sort de monde arabe, monde occidental, vous proposez un cinéma subversif qui est, à mon avis, aussi subversif en France, hein, si on sort du contexte tunisien, dans un contexte où les anciens, les ex-Mao ont retourné leur veste. Quoi. Y a comme le livre de Guy Hockengame, Lettre ouverte à ceux qui sont passés du Colmao au Rotary. Et du coup, c'est vrai que vous devez occuper une place assez marginale dans cet univers.
Ah oui, tout à fait, parce que comme ils sont très bien introduits dans toutes les instances de décision de télévision, par exemple, et ben Ouled Lénine ne se vend nulle part dans une télévision. On va encore essayer, mais déjà au moment où je préparais le film et que j'ai contacté pas mal de chaînes françaises, c'était vraiment, je sentais bien que comment on peut oser faire un film qui raconte le côté positif des communistes, quoi. Mais vous êtes malade. Tout le monde critique négativement les communistes. Et comment vous osez, surtout des Tunisiens, en plus, vraiment, depuis quand les Tunisiens vont venir nous faire la leçon sur ce sujet, quoi. Je sentais bien tout ça. Tout le monde me disait, pourquoi vous parlez pas aussi du rapport avec les islamistes? C'était pas le sujet du film, mais on voulait m'emmener là-dedans pour essayer de coincer les choses, quoi, en fait. Je sais, bah oui, mais ça fait rien, je vais continuer quand même.
Nous étions là, de ne pas faire comme si nous n'avons jamais été là. Et du fait que nous avons l'air de dire que nous n'avons jamais été là, les islamistes ont le terrain, les destroyants, les islamistes, eux, ils ont le terrain libre pour dire nous sommes là. Parce que nous n'osons pas dire que nous avons été là, tout simplement.
Une génération entière, après la première génération des communistes tunisiens, a cru quand même qu'on pouvait changer ce pays. Et nous avons rêvé qu'on pouvait changer ce pays.
Je crois qu'ils ont joué un grand rôle et qu'ils nous manquent, voilà, aujourd'hui. Ils nous manquent parce que je trouve qu'ils ont failli à leur mission de continuer d'exister.
Alors, votre film, Nadia El Fahni, n'a pas été acheté par des télévisions françaises, européennes, occidentales. Mais a été diffusé en Tunisie. Vous pouvez raconter ?
Oui, ça, c'était assez passionnant parce que le combat de ce film, il a pris 3 ans de ma vie parce que, évidemment, déjà d'obtenir une autorisation de tournage, ça n'a pas été forcément simple. Et le montage après, parce que financièrement, c'était compliqué en France. Et puis, une fois qu'il a été fini, évidemment, le but du jeu, c'était de le montrer à Tunis. Et c'est vrai que moi, j'aime bien faire les premières projections publiques de mes films en Tunisie. J'aime bien pouvoir dire ça au public tunisien. Et ça a été le cas, heureusement, parce qu'il y a un festival qui s'appelle Doc à Tunis, qui est dirigé par Sihem Belkhoja, qui n'est pas forcément ni une subversive, ni et certainement pas une militante de gauche, mais qui est quand même une femme courageuse et qui m'a dit « Nadia, tu es chez toi et tu viens... et tu viens montrer le film que tu veux montrer. » Et on avait une salle de 750 places. Et tout le monde était là, évidemment. Beaucoup, beaucoup de vieux cocos. Ce qui fait qu'à la fin du film, tout le monde chantait l'International. C'était assez surréaliste en 2008 à Tunis. Et ce qui a été très drôle, c'est que pour la première fois en Tunisie, moi qui avais l'habitude d'avoir quand même beaucoup, beaucoup de presse, là, du coup, j'en avais pas. Donc je me suis battue quelques mois après pour que le film passe aux journées cinématographiques de Carthage, qui sont quand même très connues. Et évidemment, j'étais programmée en plein après-midi dans un théâtre. Le film était à l'avant-dernière page du catalogue. Les gens ne savaient même pas qui passait. Enfin, pareil, pas d'annonce. Là, je me suis dit, ça va être terrible. Il y a 1200 places, on va avoir 150 personnes. Ça va être horrible. Et là, j'arrive devant le théâtre et je vois une foule massée. Et je dis aux gens, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le film d'avant? Ils me disent, mais non, ils viennent voir ton film. Je dis, non, vous plaisantez, je n'en croyais pas mes yeux, quoi. Et c'était une foule de jeunes, hein, de très jeunes, d'étudiants, évidemment. Et donc, ils ouvrent les portes, ils laissent rentrer les gens, et le théâtre se remplit qu'à moitié. Et je vois qu'il y avait encore une moitié de foule dehors. Et je demande ce qui se passe, et je vais les voir, et ils me disent, mais on nous a dit que c'était complet, qu'il n'y avait plus de place à vendre. Et là, je me suis battue avec tous les gens en civil qui étaient devant le théâtre et qui les empêchaient de rentrer. Et je leur ai dit, c'est tous mes invités, vous allez tous les laisser rentrer. Et ils sont tous rentrés. Il y avait 1200 places dans le théâtre était rempli, quoi. C'était assez extraordinaire de voir que le bouche à oreille a vachement bien fonctionné. Donc, et puis après, il y a eu une autre projection, pareil, dans un cinéma de 1500 places où il y avait... une foule incroyable, ça veut dire je sais que maintenant le film, qu'il ait une pub ou pas à Tunis, le jour où il va passer, il y aura du monde. Sauf que malheureusement, le coproducteur tunisien qui possède une salle à Tunis, eh ben, il fait silence radio quand je lui dis quand est-ce que tu passes le film, quoi.
Et le maoïsme, j'étais d'accord avec lui, mais nous étions tous d'accord avec le maoïsme très particulier. Le maoïsme, il disait, on a toujours raison de se révolter. Qui avait inscrit dans la Constitution le droit à la rébellion et qui disait il faut lâcher les masques contre le parti.
Vous disiez qu'il y avait beaucoup de jeunes tunisiens à la projection publique. Quelles sont leurs réactions?
Les jeunes, la première réaction, c'est de me dire merci. Et je pense que ça, c'est la chose qui me touche le plus la plupart du temps. C'est putain, mais on n'était même pas au courant qu'il y avait eu une contestation possible dans ce pays. C'est-à-dire qu'on est arrivé à ce stade d'une jeunesse qui ne connaît tellement que ce qu'elle vit aujourd'hui, au présent, à savoir aucune contestation, aucune presse libre, aucune possibilité de s'organiser, qu'elle pense que ça a toujours été comme ça. Et de découvrir que ça a été possible, je pense que c'est très important parce que ça peut leur donner l'espoir qu'ils peuvent eux aussi, à leur tour, un jour, le faire, quoi.
Debout les damnés de la terre, dehors les forçats de la faim. La raison tonne dans son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé faisant table rase, foule esclave, debout, debout, le monde a changé de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, levons-nous et demain l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain l'international sera le genre humain. Je veux chanter toutes les italiennes, etc. Oui. Je veux te les chanter toutes.
Non, tu la connais pas fort. En arabe.
Ah non.
هذه المعركة الأخيرة نتحدوا وغدوة الأمم الكبيرة لما البشرية هذه المعركة الأخيرة نتحدوا وغدوة الأمم الكبيرة لما البشرية.
Alors, comme pour vous, c'est important de diffuser ce film en Tunisie, est-ce que une espèce de diffusion de copie, un peu piratage, pourrait être une solution? Est-ce que vous pouvez l'envisager comme ça, de vous pirater vous-même pour le diffuser?
Oui, oui, tout à fait, sans aucun problème, je le ferai. Là, j'attends quand même, parce que le film a quand même été coproduit par TV5, Le problème, c'est que TV5, ils ont le film depuis 2 ans et qu'ils le diffusent toujours pas, quoi. Donc, voilà.
Avanti popolo, a la rescossa, bandera rossa, bandera rossa. Avanti popolo, a la rescossa, bandera rossa, triomferà. Bandera rossa, triomferà. Bandera rossa, triomferà. Bandera rossa, triomferà. E vivo il comunismo e la libertà. E viva il comunismo e la libertà. Voilà.
Vous venez d'entendre Nadia Elfani, réalisatrice du film documentaire « Où l'aide Lénine ?»
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Rendez-vous demain à 15h pour une autre chronique autour du Festival des cinémas d'Afrique du Pays d'Apt qui se tient jusqu'au 11 novembre.
Alors, il paraît que tu me cherches ?